Avec Noun, d'accord, on va commencer le chapitre 50. Chapitre 50 du Tanya, c'est un chapitre qui est très particulier, puisque c'est un chapitre que, de manière générale, on a remarqué depuis le début du Tanya que l'auteur du Tanya, l'Admor HaZaken, essayait de traiter des sujets qui étaient plutôt accessibles. Qui étaient plutôt accessibles, ça veut dire qu'il nous parlait de niveaux qu'on pouvait obtenir relativement facilement, ou même si ce n'est pas facilement, au moins qu'on puisse y arriver de manière facile. Le chapitre 50, ça va être un chapitre un peu spécial, parce que dans ce chapitre-là, il va nous parler a priori de choses qui ne sont pas accessibles. Des choses qui concernent a priori uniquement les tzadikim ou les grands hommes. À tel point qu'on va se poser la question des fois, dans ce chapitre-là, qu'on va faire en deux cours, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il attend de nous? En vérité, comme on aura l'occasion d'expliquer, si Dieu veut, au long du chapitre, si l'auteur du livre, l'Admor HaZaken, si l'Admor HaZaken va nous dire ce chapitre 50, c'est uniquement pour boucler un sujet. Parce qu'on a commencé un sujet depuis le chapitre 43, qu'on va résumer très rapidement, mais bon, je ne vais pas le résumer entièrement aujourd'hui. Et pour boucler le sujet, il va nous parler, il va nous dire, je t'ai parlé de plusieurs niveaux qui sont accessibles, mais sache qu'il y a un niveau qui n'était pas accessible, mais je t'en parle quand même, pas parce que je pense qu'il t'est accessible, d'accord ? Pas parce que je pense que si tu vas percer, tu y arriveras. Parce que ça, c'est, comme il expliquera, c'est un don de Dieu, c'est soit on est avec, soit on n'est pas avec. C'est un certain niveau d'amour de Dieu, d'accord ? Mais il va quand même nous en parler, pour qu'on puisse faire le tour du sujet et pour qu'on puisse savoir quand quelqu'un vous parle d'amour de Dieu, on sait de quoi on parle. De manière générale, jusqu'à présent, depuis le chapitre 43 jusqu'au chapitre 49, on a parlé de plusieurs niveaux d'amour qu'on pouvait avoir envers Akadosh Baruch Hu, qu'on pouvait avoir envers Dieu. Plusieurs niveaux d'amour. On a expliqué plusieurs niveaux d'amour que l'homme pouvait avoir envers Akadosh Baruch Hu. D'accord ? On a expliqué. On va enlever la batterie, comme ça il me casse les pieds. Voilà. Donc, on a expliqué plusieurs niveaux de Ahavat Hashem. On va commencer à développer donc directement dans le chapitre 50. Perek Nun. On dit la chose suivante. Veine. Kol prinot ou madrigot Ahava aniskarot leel. Tous les niveaux d'amour qu'on a cités précédemment, à partir du chapitre 43. On a expliqué qu'il y a un amour qui est très fort, il y a un amour qui est moins fort, on a dit qu'il y a des gens qui vont s'approcher de Dieu parce qu'ils sont attirés par l'intellect qu'il y a dans la Torah, il y a des gens qui vont s'attirer de Dieu, qui vont être attirés par le côté sentimental qu'il y a dans la Torah, il y a des gens qui vont être attirés par le côté divin qu'il y a dans la Torah. Chacun, il va avoir son amour particulier. Donc on a développé plusieurs niveaux d'amour. On a dit qu'il y a même des gens qui vont sentir rien de tout ça, ni vont sentir le côté divin de la Torah, ni vont retrouver le côté sentimental de la Torah, ni le côté social de la Torah. Ils vont simplement s'attacher à la Torah parce qu'ils vont dire Dieu il nous a créés, donc un minimum c'est qu'on essaye de suivre à la lettre ce qu'il nous demande. Donc on a expliqué plusieurs niveaux d'amour. D'accord, plusieurs niveaux d'amour, chacun on s'est à peu près retrouvé. Mais tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, Hen mi sitra d'Yemina, ça correspond au côté droit. C'est quoi le côté droit? Alors là, on va devoir expliquer au moins brièvement une notion de Kabbalah. Dans la Kabbalah, on nous explique la chose suivante. La Kabbalah, on nous explique qu'il y a ce qu'on appelle l'arbre des Séphirot. C'est quoi l'arbre des Séphirot? Ça veut dire que lorsque dans l'émanation d'Akadosh Baruch Hu, et de manière générale dans l'émanation d'une personne, on retrouve le côté droit et le côté gauche. Le côté droit représente en général la bonté, et le côté gauche représente la rigueur. Maintenant, après, il y a des détails. D'accord? Je vais commencer par exemple par le premier. Le premier, c'est Chesed. Chesed, c'est la bonté, donc ça, c'est clairement du côté droit. Le second, c'est comme un arbre, vous allez comprendre aussi pourquoi. Le second, c'est Gvura. Gvura, ça veut comment traduire en hébreu Gvura ? La rigueur. Donc la rigueur, quelqu'un de rigoureux, je ne parle pas de quelqu'un de méchant, quelqu'un de rigoureux, c'est clairement du côté gauche. D'accord ? Côté gauche, le côté où on restreint. Ensuite, donc on a la bonté, la rigueur, et au milieu, on a la compassion. C'est quoi la compassion ? La compassion, on a expliqué dans le chapitre 3 du Tanya, c'est le mariage des deux. C'est le mariage de la bonté et de la rigueur. C'est-à-dire, c'est savoir marier les deux. Très bien. Donc, Chesed, Gvura, Tiferet. Bonté, rigueur, compassion. Droite, gauche, milieu. Ensuite, je redescends. Je continue encore plus bas. Netzach. D'accord ? Netzach, c'est l'envie de gagner. On dit qu'en nous, on a une envie de gagner. C'est-à-dire, des fois, quand, par exemple, un employeur voit qu'il n'arrive pas à... on appelle ça motiver quelqu'un, des fois, la seule manière de le motiver, ça va être en le piquant. On lui dit, t'es un incapable. Des fois, dans les écoles, ils sont un peu comme ça. Il va piquer un peu. Bon, il faut faire attention quand on fait ça, parce que des fois, ça rate. Mais il va piquer la personne. Et qu'est-ce que ça se fait quand on va piquer la personne? Ce qu'on espère, c'est que la personne va se sentir touchée et va dire, je vais lui montrer que je peux le faire. D'accord? Donc ce côté-là, cette envie de je vais montrer que je peux le faire, d'accord? C'est une qualité qu'on a en nous, c'est une qualité qui vient du côté droit. C'est-à-dire, je vais montrer, je veux me battre, je suis prêt à le faire, je peux le faire. Ça, c'est Netzach. De l'autre côté, à la gauche, on a Hod. Hod, c'est l'humilité. Donc l'humilité, c'est clairement du côté gauche. C'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui va se recroqueviller, c'est quelqu'un qui va être enfermé. D'accord? Et encore une fois, celui qui est au milieu, juste après, c'est Yesod. Yesod, c'est quoi? C'est être capable de marier les deux. C'est très difficile. De marier l'envie de vaincre, l'envie de persévérer et l'humilité. C'est très difficile parce que dans la vie, on a des fois des gens qui sont persévérants, qui ont envie d'avancer très loin, mais qu'ils écrasent tout le monde au passage. Et on a des gens qui sont tellement humbles que du coup, tout le monde les écrase et qu'ils n'avancent pas. Donc c'est très difficile. Et c'est là que vient la qualité du milieu qui s'appelle Yesod, qui lui te dit, il faut marier tout ça. Pourquoi je vous explique tout ça maintenant? Vous allez voir pourquoi. On explique tout ça parce que on va parler un petit peu de Sfirat HaOmer. Comme vous savez, dans le livre, on a un livre de prière ici. Ouais.
C'est qui a séparé comme ça le droit du
Le Zohar.
C'est le Zohar. Dans la Kabbale.
Ouais, dans la Kabbale. Avec plaisir. C'est quelle page alors, sur un tavern, peut-être arriver où
324e paragraphe.
Le Sfirat HaOmer.
352,
donc, c'est de l'humour, hein.
352
ouais. 352. Bon, alors dans le Homer, d'accord, donc le Homer, on a 49 jours du Homer. 49 jours du Homer, d'accord. Ça veut dire qu'à partir du deuxième jour de Pessah jusqu'au Shavuot, on a 49 jours. C'est 49 jours. D'accord. Donc c'est 7 fois 7. C'est 7 fois un multiple de 7. Ça correspond à quoi ces 7? Ces 7, ça correspond aux 6 choses que je viens de dire, plus une 7e. D'accord. Aux 6 tendances que je viens de dire. Donc je répète, on a dit la bonté, la rigueur, la compassion. Ensuite, Netzar, ça veut dire l'envie de gagner, l'humilité, d'accord, et le mariage des deux. Et il y en a un 7e que je n'ai pas cité encore, c'est Malchut. C'est quoi Malchut? Malchut, c'est-à-dire la gloire qu'une personne peut avoir. Ça veut dire que c'est pas de l'orgueil, c'est encore plus fort que ça. C'est le fait qu'une personne peut se sentir bien, peut se sentir, c'est pas comme un roi, mais il se sent bien. Il se sent qu'il gère la situation, il se sent bien dans sa peau. C'est une qualité, ça aussi, se sentir bien dans sa peau. Ça s'appelle Malchut. Malchut, c'est le mot Meler, le roi. Le roi qui est bien dans sa peau, se sent qu'il gère la situation. Alors pourquoi je parle du Sfirat HaOmer? Parce que vous remarquez que quand on compte le Homer, tous les jours, on dit Ayom, Yom Echad la Homer. Aujourd'hui, on est le premier jour du Homer. Qu'est-ce qu'on dit, juste en dessous? On dit que on te demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider aujourd'hui à améliorer la mida, l'attribut de Chesed Shebe Chesed. Ça veut dire la bonté de la bonté. Pour l'instant, je lis, après on va expliquer. Deuxième jour du Homer, qu'est-ce qu'on dit? On demande Gvura Shebe Chesed. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider à améliorer la rigueur qui est dans la bonté. C'est quoi la rigueur qui est dans la bonté? C'est on est rigoureux et on est bon. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que ce n'est pas si simple que je l'ai présenté. Moi, j'ai présenté les grandes lignes, j'ai dit voilà, côté droite, côté gauche, côté milieu. Alors, quand on voit ça, on dit tout de suite, je plonge le côté du milieu. Non, c'est pas si simple que ça. Pourquoi c'est pas si simple que ça, hein? On amène l'exemple suivant, c'est le Zohar qui amène l'exemple suivant. Il dit, c'est très simple. Il dit, vous prenez un père qui voit son fils en train de jouer avec un couteau. Et il le laisse jouer. Il le laisse, il dit, vas-y mon fils, continue. Est-ce que c'est de la bonté ou de la rigueur, ça? Extérieurement, ça peut paraître comme de la bonté. Il dit à mon fils, vas-y, fais ce que tu veux. C'est de la bonté. Mais pourtant, nous, on sait qu'en vérité, au fond des choses, c'est de la rigueur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous dit le Zohar, ça c'est ce qu'on appelle la bonté dans la rigueur. Ça veut dire qu'en vérité, le père est rigoureux, mais ça va s'exprimer extérieurement dans une bonté. Je prends l'exemple de l'autre côté, l'exemple inverse maintenant. Imaginez-vous maintenant un père qui voit son fils en train de faire une bêtise et qui va le gronder. Celui qui voit extérieurement, qu'est-ce qu'il voit? Gvura. Il voit une rigueur. Mais en vérité, nous, on sait que cette rigueur exprime une bonté. Pourquoi j'aime cet exemple-là? Pour montrer que même si on a dit qu'il y a les grandes lignes, qu'il y a la droite et la gauche, etc., mais ce n'est pas si simple. Parce que des fois, il y a des mariages entre les deux. Des fois, on peut retrouver la rigueur dans la bonté et la bonté dans la rigueur, comme dans les exemples que je viens de citer. C'est ça qu'il vient de dire Edmond Razaken maintenant. Maintenant, on reprend notre texte. Edmond Razaken, il dit que tous les exemples qu'on a cités jusqu'à présent, c'est-à-dire toutes les catégories d'amour qu'on a dit, les gens qui vont être attirés par le côté social de la Torah, les gens qui vont être attirés par le côté divin de la Torah, les gens qui vont être attirés par, ils vont dire, puisque Dieu nous a créés, alors on lui doit quelque chose. Tout ça, ça correspond à quoi? Ça correspond au côté droit. Et quand on dit le côté droit, on inclut le côté droit et même la rigueur qu'il y a dans le côté droit. Mais le côté droit, on va expliquer ce que ça veut dire. Ou Prinat Kohen, Ishresen. Ah bon, je vous avais prévenu que c'est un chapitre un peu compliqué. Ou Prinat Kohen, Ishresed. D'accord? Et ça correspond au Kohen qui est appelé un homme de bonté. D'accord? Donc c'est très crypté ici ce qu'on est en train de dire. Ah là, c'est par contre, si ça tape, vous ouvrez. C'est ouvert, juste tu tournes. C'est peut-être la personne qui a téléphoné. Si vous comprenez pas, ne m'en voulez pas. Non, c'est peut-être une dame. Vous comprenez jusqu'à maintenant? D'accord,
je
non.
Très bien.
J'essaye de rendre clair,
je
mais...
Je comprends très bien, et en plus, si mes souvenirs sont bons, la science aujourd'hui a démontré le cerveau est coupé en deux.
Ah, oui.
Une partie de créativité, une partie...
Ouais. J'ai entendu en trois maintenant, ils disent.
Non, il n'y a pas de lettre à poster.
J'ai entendu qu'ils disent droite, gauche et derrière.
Ah, bah c'est parti. Je ne connais pas.
Celui d'ici.
Mais le droit, ouais. c'est la logique, d'accord, le gauche, c'est l'art, c'est l'art, c'est la créativité. Et là, ce que vous dites, c'est pareil. Hein, quand vous parlez de rigueur et de bonté, c'est un petit peu le côté culturel, le côté artistique et le côté rigoureux de...
Ça me rappelle une histoire. Hein. Une fois, il y a...
Ce qui est superbe, ce qui est magnifique, c'est que ça s'est démontré aujourd'hui. Et que si vous me dites que c'est dans la cabane.
Ah voilà ce que je vous dis, c'est pour ça que je vous raconte une histoire.
C'est ça qui est très beau.
Ça me rappelle une histoire. Hein. Une fois, il y a un des élèves du rabbi Shmuel qui est venu le voir. Il lui a dit aujourd'hui, les scientifiques ont découvert quelque chose d'extraordinaire. C'était une découverte qu'ils venaient de découvrir. Qu'est-ce qu'ils avaient découvert? Ils avaient découvert qu'il y avait un membre dans la tête, d'accord, qui pouvait se diriger soit vers la réflexion, soit vers la mémoire. Et ils avaient découvert la chose suivante, ils avaient découvert que lorsqu'une personne cherchait à se rappeler de quelque chose, naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il lève sa tête ou il baisse sa tête? Quand tu cherches à te rappeler de quelque chose, tu lèves ta tête. Et quand une personne veut réfléchir et qu'il n'arrive pas à réfléchir, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse sa tête. Et ils ont démontré, ils ont expliqué, les scientifiques de cette époque-là, qu'il y avait un membre ici derrière, à ce niveau-là, qui, c'était comme un clapet comme ça, que dès qu'on levait la tête, il se dirigeait vers le côté mémoire, dès qu'on baissait la tête, il se dirigeait vers le côté... Il se dirigeait vers le côté réflexion. Très bien. Et donc il a raconté ça à son maître. Son maître, sans ni une ni deux sur place, il lui sort un écrit. Il avait un écrit qu'il avait reçu du Baal Shem Tov. Et il lui montre noir sur blanc. Clairement. Il dit voilà, c'est écrit là-bas, bon c'est dans la sphère céleste, mais c'est écrit, il y a un membre, d'accord, que quand on le lève vers le haut, il correspond à la mémoire de Dieu qui pense à nous, et quand on le baisse vers le bas, il correspond à la réflexion. C'est écrit. Clairement.
Mais la différence, si je peux me permettre, là je vous fais dérailler là. La différence, c'est que là, c'est uniquement dû à la réflexion, ce qui a écrit dans les livres, mais ce que nous avons démontré aujourd'hui, c'est fait par la démonstration.
Ouais.
C'est-à-dire que d'un côté, c'est l'expérience, et de l'autre côté, c'est la pratique.
C'est vrai, non, c'est vrai. Alors, donc, Uprinat Cohen, on en revient à notre sujet, dans la bracha, hein, que Moshe Rabbeinu a dit à la fin de ses jours, juste avant de partir de ce monde, il a béni la tribu de Lévi. Il a dit, ou Lévi Amar, Tumecha veurecha le ish chassidecha. C'est dans la bracha qui est dans Aazinu. Dans la paracha Aazinu. Dans la paracha Aazinu là-bas, on a toute une série de brachot, de bénédictions, et de malédictions aussi. D'accord? Il y a la police qui est là-bas. Si quelqu'un va dire, bon. Et toute une série donc de bénédictions et de malédictions, qu'Akadosh Baruch Hu, donc qui là-bas, il citait là-bas, quand il parle de la tribu de Lévi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit où le Lévi Amar, et à Lévi, Moshe Rabbeinu s'est tourné vers Lévi, il leur a dit, Tumecha veurecha le ish chassidecha, il dit, vous les Lévim, vous représentez le chesed, la bonté. Alors là-bas, les commentaires disent, mais ça veut dire quoi qu'un Lévi, il représente la bonté? Alors, il dit qu'en vérité, on ne parle pas spécialement des Lévim, on parle des Kohanim, en vérité. Pourquoi les Kohanim? La Gemara Kiddushin pose la question suivante. Elle dit, les Kohanim, on sait très bien que c'est les hommes, et on sort. La Gemara Kiddushin pose la question suivante. Elle dit, on sait très bien que les Kohanim représentent Dieu. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, d'accord ? Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, il venait au Beth Amikdash, et qui c'est qui prenait le sacrifice pour l'offrir à Dieu ? C'était le Kohen. Très bien. Là, la Gemara pose la question suivante. Elle dit, si quelqu'un a fait un vœu, il a fait un vœu, il a dit, il s'est accroché avec un Kohen un jour, par exemple, et il a fait un vœu, il a dit, plus jamais je ne profiterai d'un Kohen. Il a fait un vœu. Et vous savez qu'un vœu, tant qu'on ne le délie pas, on est obligé de le garder. Donc il a fait un vœu, il s'est accroché avec un Kohen, mais il a fait le vœu. Peu importe s'il devait le faire ou pas le faire, maintenant il l'a fait. Il a dit, je jure de ne pas profiter d'un Kohen. Alors là-bas, la Gemara pose la question suivante, elle dit, est-ce qu'une personne comme ça a le droit de venir au Beth Amikdash et donner son sacrifice au Kohen ? C'est un profit. On est d'accord ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un profit ou pas ? Et là-bas, la Gemara répond, elle dit non. Elle dit, le Kohen n'est pas mon émissaire. Le Kohen est l'émissaire de Dieu. C'est-à-dire que le Kohen ne fait pas profiter l'homme. Le Kohen fait profiter Dieu. Ça veut dire quoi ? Ce que la Gemara explique là-bas, c'est la chose suivante. Elle dit que le Kohen, c'est pas la personne, c'est pas que moi je veux m'attacher à Dieu. Et le Kohen, il me dit, bon, puisque tu veux t'attacher à Dieu, alors je vais t'aider, je vais t'envoyer un coup de pouce pour t'envoyer vers Dieu. Non. Dans ce cas-là, je n'aurais pas le droit de donner mon sacrifice au Kohen, si j'ai fait un vœu. Pourquoi ? Parce que le Kohen me rend service. La Gemara dit, c'est pas ça. La Gemara dit, le Kohen, c'est un homme de Dieu. C'est moi, je veux m'approcher vers Dieu. Et Dieu me dit, toi, tu peux pas me toucher directement, mais tu peux toucher mon homme. Donc touche-le à lui et moi, je te prends après. Et de là, la Gemara a dit là, elle dit que même si une personne a dit qu'il ne veut pas profiter d'un Kohen, il s'est accroché avec un Kohen, tout ce que vous voulez, il a le droit d'amener son sacrifice et de le donner en main propre à un Kohen. Pourquoi ? Puisque le Kohen vient le prendre à la place de Dieu. Pourquoi je parle de ça maintenant ici ? Parce que ça veut dire que le Kohen représente le chesed, le Kohen représente la bonté. C'est quoi la différence entre la bonté et la rigueur, entre le côté droit et le côté gauche ? Le côté droit, c'est celui qui donne, c'est celui qui descend. Le côté gauche, c'est celui qui monte. Droite, gauche. C'est comme on a expliqué la semaine dernière, la différence qu'il y a entre l'étude de la Torah et la prière. Qu'on a expliqué. On a dit que l'étude de la Torah, c'est je fais descendre Dieu dans ma vie de tous les jours. D'accord ? Ça veut dire que je prends des notions célestes et je les fais rentrer dans la vie de tous les jours. Par exemple, des téphilines, ça va être du cuir, etc. Alors que la prière, c'est exactement le contraire. C'est quoi la prière ? Ce qu'on a expliqué la semaine dernière, vous vous rappelez ? La prière, on a dit, c'est le contraire. La prière, c'est moi qui vais essayer de monter vers Dieu. C'est moi qui vais essayer de m'attacher à Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit sur le Kohen ? Le Kohen, c'est quoi ? Le Kohen, c'est un homme de chesed. Chesed, c'est-à-dire c'est un homme de bonté, c'est-à-dire que le Kohen est là pour faire descendre à Kadosh Baruch Hu. Et il nous dit, l'Admor HaZaken, ce qu'il nous dit ici, c'est que de manière générale, tous les niveaux d'amour qu'on a expliqués jusqu'à maintenant, d'accord ? Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, tous les niveaux d'amour qu'on a expliqués jusqu'à maintenant, correspondent un petit peu au niveau du Kohen. Je vais expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a derrière ce que l'Admor HaZaken veut dire ici. L'Admor HaZaken veut dire la chose suivante. Prenez l'exemple de quelqu'un qui a fait Teshuvah. Quelqu'un qui a fait Teshuvah. Il était un peu loin de la Torah, on a tous fait Teshuvah à un certain niveau. À un certain moment de sa vie, il a fait Teshuvah. Il s'est rapproché davantage de la Kadosh Baruch Hu. Bon. Donc au début, il sent qu'il a quelque chose qui l'attire vers le divin, qui l'attire vers la Kadosh Baruch Hu. Mais après un certain temps, au bout d'un certain temps, une fois qu'il s'est bien habitué à la Torah, il sent qu'il a perdu cette soif qu'il avait avant. Il sent qu'il a atteint sa vitesse de croisière et que maintenant, il va bien. C'est-à-dire que, par exemple, avant, tout au début, lorsqu'il a commencé à faire son Shabbat, bon, au début, il a galéré peut-être, après, il kiffait grave, et après, au bout d'un certain temps, il sent qu'il se sent bien, d'accord ? Il sent qu'il se sent bien, que tout va bien, mais il ne ressent plus le feu qu'il avait avant. Avant, il y avait un feu, il était attiré, il sentait que... il voulait monter, monter, monter. On voit les gens qui font Teshuvah, dans leur première phase de Teshuvah, on les sent, ils sont là à l'affût de tout ce qui se va. Dès qu'il y a un truc, ils prennent. Vraiment, on le sent. Et après, avec le temps, quand ça veut dire la nuit, tu lui dis 10 prières par jour, il te vient 10 fois à la synagogue.
On les appelle les nouveaux religieux.
Les nouveaux religieux, on les appelle ?
C'est géologique.
Après, il y a les anciens.
Après,
ça fait peur. Non, après, il y a ceux qui ont pris la vitesse de croisière. Une fois qu'il prend la vitesse de croisière, il s'habitue. Et là, la question qu'on se pose à ce moment-là, on se dit, mais attends, si j'ai perdu la soif que j'avais avant, est-ce que ça veut dire que je me suis planté ? Est-ce que ça veut dire que je me suis trompé ? Est-ce que ça veut dire que c'est pas normal ? Est-ce qu'il y a un problème dans ce que je fais ? Non, il n'y a pas de problème, puisque je continue à faire Shabbat, je continue à faire les mitzvot, je continue à servir Dieu. Mais pourtant, je ne ressens plus cette soif que j'avais avant. Vous voulez un exemple plus simple ? Allez, on va prendre un exemple. Rosh Hashanah Kippour. Rosh Hashanah Kippour, il n'y a pas un juif qui n'a pas envie de s'améliorer. Donc on a une certaine soif, on a envie de s'améliorer, de s'approcher, etc. Cette soif s'en va après. Donc quand cette soif s'en va, ben là maintenant on est à presque Pourim. On va essayer de se rappeler comment on était à Rosh Hashanah. On a oublié. Alors je me pose des questions, je me dis, mais alors, est-ce que ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est du pipeau ? si je me pose la question sincèrement. Est-ce que ça veut dire que ce que je me suis passé à Rosh Hashanah, c'est du pipeau? On te répond, on te dit non, c'est pas du pipeau. Pourquoi c'est pas du pipeau? Parce que de manière générale, tous les niveaux d'amour qu'on a expliqués jusqu'à maintenant, c'est de l'amour qui est, d'accord, qui est, comme on va expliquer ici, on va appeler ça l'amour comme de l'eau. C'est-à-dire tout ce qu'on a expliqué ici, les gens qui sont attirés par Akadosh Baruch Hu, par le côté social de la Torah, par le côté spirituel de la Torah, par le côté Akaratatov, bon, je ne veux pas rester tout ce qu'on a dit les semaines précédentes. À un certain moment, ils sentent qu'ils ont plus cette soif. On te dit, c'est pas une erreur. Tant que tu continues à faire la Torah, c'est pas une erreur si tu as plus cette soif. Pourquoi c'est pas une erreur? Parce qu'au bout d'un certain temps, c'est comme de l'eau. Le Zohar appelle ça l'Ahava Kamaïm. Ahava comme de l'eau. Il fait appel à une notion de Shirachirim. Quand Shirachirim, là-bas, à un certain moment, le roi Salomon, quand il parle de l'amour qu'il a vers sa fiancée, donc il parle vers son fiancé, pardon, donc c'est l'assemblée d'Israël qui parle à Dieu, là-bas, il dit que je t'aime comme de l'eau. C'est-à-dire quoi, l'amour comme de l'eau? C'est quoi la différence entre l'eau et le feu? C'est quoi la différence entre l'eau et le feu? Quand on s'imagine... Oui, mais quand on s'imagine l'eau et le feu, c'est quoi la différence? Imaginez-vous de l'eau, et imaginez-vous du feu. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? On va commencer par le feu, peut-être.
Le feu est détruit.
Le feu, il détruit. Le feu, mais à part ça, qu'est-ce qu'on voit dans le feu? Le feu, j'ai dit l'eau aussi, elle peut dire. L'eau.
Le feu est dangereux.
Alors, le feu, très bien. Le feu, il monte, l'eau, elle descend, d'accord? Toi, tu as dit le feu, il détruit. D'accord, très bien. Est-ce qu'on a encore d'autres choses?
Le feu, il est immatériel.
Le feu, vous avez dit le feu est non, vous avez dit aussi le feu est chaud et l'eau est froide par définition.
Oui, l'eau ça mouille et le feu.
On peut pas attraper. On peut dire
très bien. Donc le feu, par définition, ça montre une activité. On voit qu'il est constamment en train d'essayer de bouger. On dirait qu'il veut monter. Il veut monter, il cherche à monter. D'accord. Alors que l'eau, au contraire, l'eau elle stabilise. Pas seulement ça. On va pousser encore un peu plus loin. D'accord. Vous prenez un timbre. Comment vous allez coller le timbre à l'enveloppe? Avec de l'eau. Ça veut dire que l'eau, ça peut être non seulement un élément qui calme les choses, qui est calme, qui est paisible. L'eau, ça représente la paisibilité. Quand on voit la mer, normalement, ça amène la paisibilité à la personne. Pas seulement ça. L'eau, ça peut lier les choses. L'eau, ça peut lier les continents. L'eau, ça peut faire beaucoup de choses. Alors que le feu, au contraire, ça décompose. Mais d'accord? Quand on brûle quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Où ça va partir tout ça? Ça va se décomposer. En cendres, très bien. C'est-à-dire que l'eau représente le calme, la tranquillité, l'union. Le feu représente décomposition et constamment en effervescence. De la même manière, dans l'amour qu'on peut avoir vers Akadosh Baruch Hu, on a deux catégories d'amour. La première catégorie d'amour qu'on a parlé jusqu'à présent, d'accord, c'est jusqu'à depuis le chapitre 43, avec toutes les variantes qu'on a pu expliquer, c'est un amour qui est comme de l'eau. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, c'est pas que ça s'arrête, mais ça se stabilise. Au bout d'un certain temps, j'ai fait teshuva, bon, après ça prend une vitesse de croisière. Et ça veut pas dire que je me suis planté. Ça veut pas dire que je me suis trompé. Tant que je continue à faire la Torah, tant que je continue à venir à mes cours, tant que je continue à venir à mon minyan, au bout d'un certain temps, je sens plus la même ferveur qu'avant. Ça veut pas dire que je me suis trompé. Ça veut dire que je ne suis pas un tzaddik. Parce que vous prenez le tzaddik, lui, le tzaddik, de jour en jour, il veut toujours aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin. On le voit chez les tzadikim. Les tzadikim, chaque fois qu'on va les voir, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, il faut rajouter. Il est constamment en effervescence, constamment en train de chercher quelque chose. Est-ce que ça veut dire que nous, on s'est trompé? Non. Ça veut pas dire qu'on s'est trompé.
Il y a vouloir et pouvoir aussi.
Non.
On veut, mais...
Ça veut dire, c'est ce qu'il explique, c'est que nous, au bout d'un certain temps, on se calme. C'est vers quoi on se calme? C'est pas qu'on arrête, je parle pas de quelqu'un qui s'arrête, quelqu'un qui a essayé, qui est retombé. Non. Il a fait teshuva, il a décidé, il continue. Et pourtant, il n'a plus la même soif qu'avant. Je dis, c'est normal. Parce qu'il y a deux catégories d'amour. Tu as l'amour comme l'eau, l'amour comme le feu. L'amour comme l'eau, d'accord, c'est l'amour comme le Kohen. C'est l'amour qui descend, ça veut dire l'amour que plus on va avancer, plus on va se calmer. Vous prenez par exemple un enfant qui est en train de pleurer, qui cherche sa mère. Oui, cherche sa mère. Une fois qu'il a retrouvé sa mère et que sa mère le prend dans les bras, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il s'arrête de pleurer. Pourquoi il s'arrête de pleurer? Parce que ça y est, il est content, il a eu ce qu'il voulait. Allô, mais tu pleurais avant, pourquoi tu pleurais? Tu voulais ta mère. Tu veux toujours ta mère? Et oui, je veux toujours ma mère, mais maintenant, je suis tranquille, je suis calme. Ça, c'est l'amour qui est comme l'eau. Et en vérité, c'est le sentiment qu'on a, donc 99,9% des gens, c'est des sentiments de ce style-là. C'est-à-dire, on cherche quelque chose, et une fois qu'on l'a atteint, on se calme. Donc c'est comme la bourse, il y a des courbes, d'accord? Je cherche, après je retombe, après je cherche, après je retombe. Le tzaddik, il n'est pas comme ça, le tzaddik, il n'est pas du tout dans le même registre. Le tzaddik, c'est comme le feu. Ça veut dire le feu, par exemple, d'accord? Le feu, il va se consumer. Maïmonide dit que le feu, il est attiré vers comme une sorte d'aimant, d'accord, qui se trouve en dessous de la lune. C'est une sorte d'aimant, enfin, c'est physique, d'accord, qui se trouve en dessous de la lune, qui attire le feu. C'est pour ça qu'une flamme, on voit, elle veut toujours monter. D'accord. Mais c'est pas qu'elle va essayer de monter, après elle dit bon, ça y est, je suis monté, je m'arrête, on verra dans un an. Non, tant que tu le laisses, il monte. Il ne s'arrêtera jamais. Donc de la même manière, on dit à Admorazaken, il y a un deuxième niveau, mais encore une fois, je ne dis pas que ce niveau est à notre portée. Si on étudie ce niveau, c'est uniquement, d'accord, si on étudie ce niveau, c'est uniquement pour faire le tour du sujet. Parce que on a parlé, tu as pris le mauvais tome.
Ouais. Ah. Tu dis qu'il y avait un problème.
On est à page Noun, non page Aïn, pardon. On le dit seulement pour faire le tour du sujet. Alors maintenant qu'on a parlé de toutes ces catégories d'amour, donc on va maintenant essayer de développer, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un tzadik. On va développer plus longuement. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment ça se fait qu'il veut toujours avancer? Alors il dit comme ça. Donc Venikra, Kesef Akodashim, Milashon, Nirsof, Nirsafta, les bêtes Avira. Là, il explique la chose suivante, il dit que ce niveau d'amour que nous on a, c'est-à-dire le niveau d'amour qui en vérité, on cherche quelque chose, et une fois qu'on l'a obtenu, on se calme. C'est comme ça que nous on tourne. Je cherche quelque chose, ben, c'est tout, hein. Je parle des gens qui veulent se marier, l'amour envers une femme, l'amour envers de l'argent, l'amour envers Dieu, l'amour envers qui vous voulez. D'accord? Comment le commun des mortels tourne? Je veux quelque chose, et une fois que je l'ai obtenu, ou une fois que je pense l'avoir obtenu, au moins en grande majorité, je me calme. Je me dis, ça y est, c'est bon. Bien que je peux aller encore plus loin. Mais je me calme, je dis ça y est, c'est bon, on va faire une pause, c'est déjà bien comme ça.
Après on gère.
D'accord? Pardon?
Après on gère.
Après on gère, voilà, ça va, c'est déjà bien. Ça, c'est le niveau que la majorité des gens ont. D'accord? Ce niveau-là, il appelle ça ici, c'est Nirsof Nirsafta Levet Avira. Nirsof Nirsafta Levet Avira, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le fait que, on nous dit, c'est le fait, Nirsof Nirsafta Levet Avira, ça veut dire c'est le fait qu'on a envie, on est attiré vers un Kadosh Baruch Hu. Alors c'est intéressant parce qu'on vient de quitter la Parasha Shkalim. D'accord, la paracha Shkalim. Dans la paracha Shkalim qu'on a lu, donc Shabbat dernier, de quoi on a parlé du demi-shekel, du demi-sicle qu'on devait donner. Et là-bas, le Zohar, il explique la chose suivante. C'est ramené dans notre Torah, il explique la chose suivante, il dit, c'est quoi le... Pourquoi l'attachement des Bnei Israël envers Dieu devait s'exprimer avec de l'argent? Ça, il pose la question. Comment ça se fait que ça devait s'exprimer avec de l'argent? Est-ce qu'ils auraient pu exprimer ça autrement? Je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas pu leur demander, par exemple, on a vu par exemple sur d'autres cadeaux que Dieu leur a demandé d'amener des choses en nature. D'amener, par exemple, des fois on leur a demandé d'amener. Il y a eu des fois on a demandé aux Bnei Israël d'amener de la farine, des fois on leur a demandé d'amener des choses en nature. Et bien les oreilles posent la question, ils disent comment ça se fait que pour le demi-sicle, on leur a demandé d'amener de l'argent. Et il y avait une somme particulière d'argent. C'est-à-dire que c'était une pièce particulière d'argent. Ce n'était pas lié à une valeur. On dirait que c'était lié à une pièce. À tel point que le Midrash nous raconte que Moshe Rabbeinu avait du mal à comprendre c'est quoi cette pièce et qu'est-ce que Dieu lui a montré. Il a montré un demi-sicle en feu. Il a dit voilà, c'est ça. C'est quoi le... Vous aurez dit, mais c'est pourquoi une pièce? Ce qui compte, c'est pas la pièce, ce qui compte, c'est la valeur, c'est l'argent. Et là-bas, il explique la chose suivante. Il dit que Kesef, ça vient du mot Nirsof Nirsaf. Kesef en hébreu, ça veut dire de l'argent. D'accord? Mais Kesef en hébreu, ça veut dire aussi envie. Envie de s'attacher à quelqu'un. D'accord? C'est plus qu'envie, c'est quand on est attiré vers quelqu'un. Et là-bas explique le Zohar, le fait que les Bnei Israël vont amener un demi-cycle à Kadosh Baruch Hu, c'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu que nous, sans toi, on n'est qu'une moitié, et qu'on est attiré vers toi. Donc c'est ça la symbolique qu'il y avait derrière la pièce. Donc ça, c'est le niveau du commun des mortels. 99,9% des gens, lorsqu'ils aiment à Kadosh Baruch Hu, chacun a son niveau après, chacun il va retrouver la facette qui l'intéresse dans la Torah, mais ça va être toujours dans le même style, ça veut dire, je cherche quelque chose, je suis attiré vers quelque chose, d'accord? Une fois que je l'ai atteint, je me calme. Par exemple, on a fait les Sikhot, Rosh Hashanah, t'arrives à Kippour, c'est Kippour, c'est le paroxysme, après une fois que t'as atteint Kippour,
ça y est.
Et pourquoi ça y est?
Ça y est, on se cote.
Non, mais t'as plus le...
On va dire après Simchat
Torah. D'accord, voilà, ok, après Simchat Torah, et on te l'accorde. Après Simchat Torah, ça y est, il n'y a plus rien.
Là, je me reconnais bien.
Ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est pas tout d'un coup, je suis progressif, attends doucement, on va retomber, doucement, on fait... Non, ça y est, il n'y a plus rien. Pourquoi il n'y a plus rien?
Pourquoi? C'est une bonne question.
Oui, mais...
Pourquoi? C'est une bonne question.
Tellement la Gemara a dit que le mois de Cheshvan, tellement le mois de Cheshvan, c'est le mois qui a pris le mois de Tishri. On dit tellement il est triste de ne pas avoir de fête, qu'on l'appelle Mar Cheshvan. Mar Cheshvan, ça c'est écrit. Ça veut dire Monsieur Cheshvan.
On va faire le 14 juillet.
Je suis
des Roches Rodèches. Ah, bon, Roches Rodèches, c'est déjà pas mal. C'est encore la jonction avec Tishri.
C'est pour toi que tu t'appelles Mar.
Ouais, ça.
Ah, c'est normal, ce sont des fontaines, c'est normal. C'est vrai que d'un coup...
Parce que ce mois-là, en fait,
qui pour on est
très jeune.
3 ou 4 anniversaires. C'est ça ou c'est pas ça? Et si, tu as Samuel, tu as, ils sont tous nés en octobre-novembre.
La fête continue.
Donc, le niveau d'amour qui concerne 99,9% des gens, c'est ça, c'est comme Kesef. Kesef, ça veut dire, c'est je suis attiré vers quelque chose, mais attiré, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, ça y est. C'est comme l'enfant qui est attiré, on m'a expliqué l'enfant qui est attiré vers sa mère, il pleure parce qu'il veut voir sa mère, mais une fois qu'il a retrouvé sa mère, qu'est-ce qu'il fait l'enfant ? Est-ce que vous avez remarqué ça ? L'enfant, il pleure parce qu'il veut sa mère. Il va rester dans les bras de sa mère pendant 5 minutes, et après, il va redescendre, il va aller jouer, il va oublier sa mère. Presque, il va lui donner un coup de pied. Attends. Et 5 minutes, tu pleurais, tu voulais ta mère. Comment 5 minutes plus tard, tu lui donnes un coup de pied comme si de rien n'était, comme si que ça y est, c'est bon, ça y est, tu m'as donné, maintenant je vais aller jouer. Parce que c'est ça, c'est exactement notre vie. Notre vie, on est comme ça. C'est qu'on veut quelque chose, et une fois qu'on pense l'avoir obtenu, je dis bon, ça va, j'ai eu ce que je voulais, maintenant j'avance.
Par contre, pour l'argent, on n'est jamais assoiffé.
On n'est jamais rassasié, tu veux dire.
Et ça, c'est, on veut toujours plus. Ça, c'est pas comme, les
rois Salomon, il dit...
Qui pour essayer. L'argent, c'est plus...
Tu veux dire que... Plus tu alors, on va voir, justement, on va parler de l'argent. Le roi Salomon, il dit, Oev Kesef, le Isba Kesef. Il dit, celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié d'argent. Ouais. Comme ça, il dit.
99,9%.
Alors ça, sur l'argent, ça va pas être, tu as raison. Sur l'argent, on va être comme la deuxième catégorie. Comme les tzadikim.
Notre catégorie.
Oui, oui. Mersof Nersof le Batavira, c'est un pasouk.
C'est dans quelle chanson, ça? Nersof
Nersof. Tu vas me dire?
Quelle qu'on chante tous les Shabbats.
Prends le chumash. Yaakov, c'est dangereux, passe un chumash, s'il te plaît.
Non.
Vas-y.
C'est pas, il me semble que ça me rappelle une...
On est à la page Ain Aleph, juste au début, en haut de la page.
C'est quoi la chanson?
Ah bon. Celui d'un patard.
Ouais, on attaque le 50. La 50e porte de la sagesse.
Ça arrive au bon moment, là.
On a commencé déjà. Alors, on est Bereshit, oui. Bereshit, Lamed Aleph, Lamed. Voilà, c'est un pasouk. Voilà. Voilà. Lorsque Lavan a rattrapé Yaakov, parce qu'il s'est sauvé, d'accord ? Il a rattrapé, il lui a reproché, il lui a dit « Pourquoi tu t'es sauvé ?» D'accord. Il lui a dit, je pense que si tu t'es sauvé, il lui a dit, Kinirsof, Nirsavta, Levetavira. Parce que tu étais attiré vers ton père, tu voulais retourner chez ton père. Mais il lui dit, dans ce cas-là, Lama Ganafta et Elokai. Pourquoi tu as volé, d'accord? Pourquoi tu as volé ma divinité? Pourquoi tu as volé ma divinité? Pourquoi tu as volé mes idoles? Donc là-bas, on voit que quel terme il a employé pour dire qu'il était attiré vers ses parents. Nirsof, Nirsavta. Kesef. Alors Kesef, ça veut dire l'argent, ça veut dire le fait d'être assoiffé vers la divinité. Donc ça c'est le niveau qui correspond à 99,9% des gens. On est attiré vers quelque chose, et une fois qu'on l'a, on se calme. Donc c'est normal. Quand quelqu'un fait teshuva, il est tout feu, tout flamme, mais qu'après un certain moment, il sent que, voilà, ou bien nous, Rosh Hashanah Kippour, et après au bout d'un certain temps, il sent qu'il n'a plus ce feu et cette flamme, ça ne veut pas dire qu'il s'est trompé, ça ne veut pas dire que cette teshuva n'était pas bonne. Ça veut dire qu'il fait partie de 99,9% des gens et que s'il avait besoin de se rassurer, il n'est pas de sa vie. D'accord ? Et c'est pas pour rien si Yaakov est arrivé pour le niveau de... à ce moment-là. Donc maintenant, on va parler des tzadikim.
Il n'y a pas de hasard, mais
il n'y a pas de hasard, oui. Yaakov, c'est le tzadik de la génération. Voilà. Donc c'est le trésorier Kesef. Hein,
c'est peut-être même le Machia, on ne sait pas.
Il ne l'a pas encore dit.
Mais il ne le dira pas.
Cependant, en deuxième ligne. Yesh od Prinat Ava. Comme je vous expliquais, puisque ce chapitre en vérité ne concerne pas vraiment, mais que c'est uniquement pour boucler le sujet, en tout cas, ne concerne pas 99,9% des gens de ce cours. Donc on va pas trop s'attarder, on va faire ce chapitre en deux cours, si tu veux. Ah, cependant, Yeshot Prinat Ahava Aolal Kulana. Bien, deuxième niveau d'amour, Aolal Kulana, qui est plus haute que tout ça, qui est plus important que tout. Kemalat Azahav Alakesef.
L'or.
Comme la différence qu'il peut avoir entre l'or et l'argent. L'argent, c'est un métal qui est précieux. C'est un métal qui est très précieux. C'est un métal qui vaut très cher aussi. Mais entre l'or et l'argent, il n'y a pas photo. Ça veut dire que quand tu prends un objet en argent et tu prends un objet en or à côté, même si l'argent est très très beau, et même si j'ai, ça veut dire même si j'ai 100 fois plus d'argent que d'or, l'or brillera toujours. Même un peu d'or, ça brille. C'est-à-dire c'est pas forcément la quantité. D'accord ? Je sais pas quelle est la valeur de l'argent aujourd'hui par rapport à l'or, mais à l'époque de Tosafist, d'accord, donc à peu près 1000 ans, on dit que c'était à peu près l'argent valait 1/12 de l'or. Je sais pas aujourd'hui combien ça vaut. Combien ça vaut ? Ah, tu vas regarder à la bourse. Où c'est écrit ? L'application. Bon.
Sinon, tu regardes chapitre 38, on en a parlé.
On n'a pas parlé de la...
Non,
la
réponse.
Ce qu'on appelle Golden.
Gold, ouais.
Si je me rappelle, il y
avait... Je connais pas là. Ah, peut-être Yves va nous dire.
Il y avait Yves.
Yves, c'est quoi la différence de prix entre l'or et l'argent ? À la bourse.
La différence de
prix ? Oui. Le rapport
entre l'un et l'autre.
Entre l'or et l'argent.
On va aller sur Boursorama, on va regarder.
Alors, non,
c'est la
mini.
Voilà.
1.101. Oui.
Et... C'est au moins de 1 à 20, au moins.
Ouais,
il a 15. Voilà.
Il a combien ?
Il a 15.
C'est
au moins 20.
Je ne sais pas si c'est long, ça, même la limite pour l'argent.
Bon, quoi qu'il en soit. En tout cas, à l'époque de Tosafi, c'était 1/12. D'accord ? En tout cas, c'est... Alors, donc, bon, c'est pas énorme, 1/12. D'accord ? Même si, disons, c'est 1/20. Hein. Imagine-toi, tu prends 1 kilo d'argent, et à côté, tu vas prendre 50 grammes d'or. Et ben, ce qu'on sait, c'est que les 50 grammes d'or te paraisseront toujours plus étincelants, plus beaux, plus jolis. Bien que pas normal, c'est pas logique. Si j'en ai beaucoup plus, peut-être ça vaut plus cher. Mais malat azav à la KSF, l'or, c'est toujours beaucoup plus beau que l'or. Alors il nous explique l'Admor Hazaken, il dit de la même manière, ce deuxième niveau d'amour qu'on va parler maintenant, c'est un niveau d'amour qui n'a rien à voir, enfin c'est pour ça qu'on va expliquer en réalité que les tzadikim n'ont rien à voir avec nous. Et c'est pas seulement que ça n'a rien à voir, c'est que c'est pas comme si tu vas comparer deux argents, que tu as un argent qui est plus étincelant, un autre qui est un peu moins étincelant. De la même manière qu'il n'y a pas photo entre l'or et l'argent, c'est qu'il n'y a pas photo, on ne peut pas les comparer. Bah, de la même manière, ce deuxième niveau d'amour, c'est carrément une autre ligue. C'est pas du tout la même ligue. On n'est pas du tout dans la même ligue. Peut-être Yaakov nous expliquera un peu ce que ça veut dire.
Parce que le diamant, par exemple, le diamant c'est encore plus petit, et c'est encore plus beau.
Bah, c'est des grandes tzadikim, le diamant.
C'est pas la même nature, c'est pas un métal. C'est pas un métal.
Non, platinium,
c'est vrai. De valeur monétaire.
Oui.
C'est une question de valeur dans la matière.
Oui.
L'or, dans la matière, c'est une caractéristique de la
matière. Exactement. Ouais. Ah oui, c'est sûr. L'or, ça brille, c'est tout de suite. Oui, c'est vrai, oui. C'est écrit dans la Gemara aussi, oui. C'est écrit que l'or ne s'oxyde pas. L'or ne s'oxyde pas.
Tu veux dire que 1/12 d'or n'a pas du tout la même valeur que...
Non, encore une fois, ça veut dire... C'est pour ça que j'ai dit la différence entre la quantité et la qualité. C'est que c'est possible qu'en valeur... Imagine-toi ici que j'ai 1 kilo d'argent, d'accord ? Et à côté, j'ai un petit morceau d'or. C'est possible qu'en valeur, j'ai plus d'argent. Il y a plus.
En argent.
Mais ça ne change pas que...
Donc c'est en dehors de sa valeur.
Ça ne change pas que... Qu'est-ce qui va me flasher le plus ? Il n'y a pas photo. L'or n'est pas photo. Pourquoi il n'y a pas photo ? On a dit la chose suivante. Il dit, Vehi, donc ça correspond à quoi ? Ça correspond au niveau d'amour qu'on va expliquer maintenant. L'amour que les tzadikim éprouvent. Vehi. Ava... Kérish Fehesh. D'accord. Ça, c'est un amour, Kérish Fehesh, comme des flammes de feu. C'est quoi l'amour comme des flammes de feu ? C'est-à-dire, c'est pas un amour comme nous, la bourse. Comme nous, on a, c'est comme l'eau. Ça veut dire qu'on monte, après j'ai obtenu, comme le bébé, vous voyez, il veut sa mère, après il prend sa mère, après sa mère lui casse les pieds, il la jette, après un quart d'heure plus tard, il reveut sa mère, après, c'est comme nous, c'est la bourse. On est la bourse, nous, on va à Kadosh Baruch Hu, après ça nous prend la tête, après on revient. Ça, c'est comme nous, comment nous on est. Mais les tzadikim, c'est pas comme ça. Les tzadikim, c'est comme du feu. Le feu, tant que tu le laisses monter, il monte. Et si tu veux pas qu'il monte, c'est toi qui dois l'arrêter. Tu dois l'arrêter, tu diras arrête de monter, ça y est, stop, calme-toi. Mais tant que tu le laisses monter, il montera, il s'arrêtera jamais.
Avec de l'eau.
Avec ?
De l'eau.
Avec de l'eau. Pourquoi avec de l'eau ?
Pour éteindre le feu.
Pour l'éteindre, d'accord, ouais, j'ai cru pour le faire monter. Hi ava kerish fehesh miprinat gvurot elyonat miprinat gvurot elyonat de binaila. Nous, ça veut dire chaliédé itbonino de gdulat en savaruchu. Qu'est-ce qui va se passer chez le tzaddik? Qu'est-ce qui va se passer dans la tête du tzaddik? Dans la tête du tzaddik, ce qui va se passer, c'est que le tzaddik n'est jamais tranquille. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que nous, on est à la recherche du plaisir. ça peut être un plaisir spirituel. On cherche quelque chose. Et au bout d'un certain temps, lorsque j'ai obtenu le plaisir, je suis tranquille, je suis calme. Chez le tzaddik, c'est pas comme ça. Chez le tzaddik, dès qu'il a obtenu un niveau, il n'est pas tranquille. C'est comme le feu. J'ai dévoré quelque chose, il me faut la chose suivante. Jamais il est tranquille. C'est pas il se dit, ça y est, j'ai eu quelque chose. Bah, au Hachem, j'ai ça. On verra plus tard pour la suite. On se débrouillera.
D'accord. Conscience non. Qu'il y a autre chose à chaque fois aussi.
Nous, c'est pas seulement qu'il a conscience. C'est que sa manière de percevoir le divin, c'est à chaque fois en se brûlant et en se consumant. Et plus il a consumé, et plus il veut consumer, Ça, le roi Salomon appelle ça les gens qui sont fous d'amour. Les gens qui sont fous d'amour qu'à tel point que, même qu'ils sont liés, ils savent plus quoi faire, d'accord ? Ils ont tout essayé, ils savent plus quoi faire pour s'attacher, pour se lier. Alors, dans ce monde-ci, quand ça arrive à nous, ça arrive quelques instants. Chez les tzadikim, d'accord ? Chez les tzadikim, ça peut être un sentiment qui est constant, qui ne s'arrête jamais. Quelque chose qui ne s'arrête jamais. Tant que tu ne l'arrêtes pas, ça ne s'arrête pas. On raconte, par exemple, on dit qu'un des élèves du Baal Shem Tov, quand il avait un problème, c'est que chaque fois quand il partait dans cette fila, quand il commençait à faire cette fila, il sentait que son Neshama allait le quitter. Il sentait qu'il montait, il sentait que son Neshama allait le quitter. Et qu'est-ce qu'il lui a donné comme technique, le Baal Shem Tov ? Il lui a dit, toutes les quelques minutes, regarde ta montre. Il lui a dit, regarde ta montre. Il lui a dit, parce que quand tu vas regarder ta montre, tu vas redescendre un petit peu sur Terre. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des gens qui sont carrément dans une autre ligue. C'est des gens que, s'il n'y a rien qui les arrête, d'accord ? Ils s'en vont de ce monde. Un des autres élèves du Baal Shem Tov, il s'appelle Rabbi Michal Zolotchov, on raconte que lui, vous savez que le Zohar nous dit que le moment de Seuda Shlichit de Shabbat, c'est le moment dans lequel le Dieu se dévoile le plus possible de tout le Shabbat. C'est un moment qui est très très fort, c'est un moment que, sous certains angles, c'est un moment qui est encore plus fort que le jour de Kippour. C'est le moment de Seuda Shlichit. Et on raconte que Rabbi Michal Zolotchov, c'était un des élèves du Baal Shem Tov, sa Neshama était particulièrement attachée à ce moment-là, et on raconte que le Baal Shem Tov avait prévenu la femme et les enfants d'Rabbi Michal Zolotchov. Il leur avait dit, faites attention à votre père et à votre